La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au Mahatma Gandhi, le chantre universel de la non-violence, assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste religieux hindou. Mais qui est Gandhi ? Et surtout, comment un fils de notable indien est-il devenu le défenseur des opprimés, anticolonialiste, nationaliste et père de l'indépendance indienne ? Comment Gandhi est-il devenu Gandhi ?
Sans son expérience sud-africaine, sans ses 21 années passées en Afrique du Sud de 1893 à 1913, Gandhi ne serait sans doute pas devenu le Gandhi tel que le monde entier le connaît aujourd'hui.
His whole personality, his whole character, his way of life.
Sa personnalité, son tempérament, sa façon de vivre et sa compréhension des êtres humains ont connu une véritable mutation. Donc oui, il est absolument nécessaire de souligner que l'Afrique du Sud a transformé la vie de Gandhi en fixant des objectifs politiques et philosophiques à son action militante.
La voix de Raj Mohan Gandhi, petit-fils du Mahatma Gandhi, que nous avons rencontré à Bombay, en Inde. Il est également biographe de son grand-père. Et pour nous accompagner dans ce voyage en Afrique du Sud, sur les traces de Gandhi, j'ai convié Pierre Sangaravelu. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation et directeur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine et des publications de la Sorbonne. Alors l'Afrique du Sud, est-ce qu'au fond ce sont des années fondamentales dans la formation de Gandhi ?
Alors c'est une dimension qui a été beaucoup étudiée par les historiens depuis les années 1970. C'est intéressant de noter comment son petit-fils, qui est aussi historien, Raj Mohan, met en exergue ce rôle spécifique en utilisant une formule contrefactuelle, hein, c'est-à-dire sans l'Afrique, Gandhi ne serait pas devenu Gandhi.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Ah si, je suis d'accord. Il montre bien au fond comment... l'Afrique du Sud a joué un rôle de pierre de touche, en quelque sorte, pour le parcours politique et philosophique de Gandhi, c'est-à-dire une sorte de révélateur, un laboratoire où Gandhi a inventé de nouvelles pratiques politiques, et puis aussi un lieu où il a forgé sa doctrine philosophique. Et donc ça n'est pas suffisant pour expliquer naturellement la suite de son histoire et de son parcours lorsque, à un peu plus de 40 ans, il débarque en Inde. Mais disons que c'est une séquence fondamentale pour comprendre la suite des événements.
Quelles seraient les autres dimensions de l'expérience de Gandhi lors de sa jeunesse, qui compte, on peut peut-être revenir sur son milieu d'origine, ça c'est très très important. On a cette image de Gandhi méditant dans le plus grand dénuement.
Oui, c'est très important. En fait, Gandhi est né à Porbandar, dans un état princier du nord-ouest de l'Inde, donc dans l'actuel Gujarat. Et il se trouve qu'il est né dans une caste, la caste des Banya. Alors c'est très intéressant parce que lui-même, dans son autobiographie publiée en 1922, il commence son livre en disant « Je suis né Banya ». Donc ça dit bien l'importance de son appartenance de caste au tout début, naturellement. C'est une caste de marchands, de négociants. Alors il est né dans une famille riche, donc il hérite évidemment de ce capital d'une certaine façon économique à sa naissance. Et en même temps, il hérite d'un capital politique puisque son père et son grand-père sont diwans, c'est-à-dire l'équivalent du premier ministre de ce petit état princier auprès du Maharaja. Et donc il est issu de cette élite, voire de cette super élite indienne.
Est-ce que cela signifie, Pierre Sangaravelu, que cette élite indienne envoie forcément ses fils chez le colonisateur, donc en Grande-Bretagne, pour faire ses études?
Alors ça n'est pas forcément le cas, puisque les Britanniques ont pour particularité, contrairement aux Français par exemple, d'avoir fondé, à la suite de la grande révolte dite des Sipayes en 1857, dès l'année suivante en 1858, trois grandes universités qui existent toujours aujourd'hui, celle de Madras, aujourd'hui Chennai, celle de Bombay, aujourd'hui Mumbai, et puis celle de Calcutta, qui, alors ensuite, jusqu'à la décolonisation, les colonisateurs fonderont une vingtaine de grands établissements d'enseignement supérieur. Et donc, ces universités accueilleront plusieurs centaines de milliers d'Indiens, et seuls les enfants de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie quitteront l'Inde pour aller faire leurs études directement à Oxford, à Cambridge, comme Nehru quelques années plus tard, ou encore à Londres, comme Gandhi.
Dans quelle mesure l'expérience estudiantine universitaire de Gandhi à Londres est formatrice en ce qui concerne le futur justement leader de l'Inde?
Alors Gandhi passera un peu plus de 2 ans à Londres entre 1888 et 1891, et c'est une expérience fondamentale pour lui parce qu'au fond on peut dire qu'il découvre l'Inde en Angleterre. C'est à Londres qu'il lit pour la première fois la Bhagavad Gita, qui est un texte fondamental de l'hindouisme et de la culture hindoue en général. C'est un, si vous voulez, une partie importante du Mahabharata, cette grande épopée que tous les Indiens, tous les enfants doivent connaître, hein, l'équivalent de l'Iliade et l'Odyssée pour l'Europe, en quelque sorte. Et c'est précisément à Londres qu'il va s'intéresser à la philosophie indienne, au végétarisme par exemple, alors que c'est une pratique très répandue en Inde, notamment dans le sud de l'Inde. C'est à Londres qu'il devient végétarien, et puis il va s'intéresser plus largement aussi, commencer à lire les grands textes du christianisme.
Donc vous diriez qu'à Londres, au fond, Gandhi découvre son indianité?
À Londres, Gandhi découvre son indianité, c'est juste, et en même temps, il devient, comme il écrit dans son autobiographie, un véritable gentleman britannique. Il se vêtit alors du costume trois pièces, et c'est ainsi qu'il débarque en Afrique du Sud en 1893.
So Gandhi was...
Et Gandhi voyageait seul, en train, comme quelqu'un qui a réussi. Originaire d'une bonne famille, maîtrisant bien l'anglais. Il pouvait se permettre de voyager en première classe. Et tout à coup, il se fait sortir du train et jeter violemment sur le quai avec tous ses bagages.
And he was holding, of course, this ticket.
Alors qu'il avait bien son billet de première classe.
Tu peux nous dire ce que tu fais dans ce wagon, Couli?
Mais j'ai un billet. Un billet de première classe.
Et tu l'as eu comment?
Par correspondance. Je suis avocat et il aurait fallu que je puisse passer
Il n'y a pas d'avocat de couleur en Afrique du Sud. Pas là où c'est prévu.
Votre valise, je vous la porte à l'arrière.
Non. Un instant, vous voulez bien? Tenez, lisez. Mohandas K. Gandhi, avocat. Je vais plaider à Pretoria pour une société indienne qui fait de l'import-export.
Vous êtes sourd? Il n'y a aucun avocat de couleur en territoire sud-africain.
Monsieur, j'appartiens au barreau de Londres. Et je suis inscrit à la cour d'appel de Londres. Je suis bien, de ce fait, un avocat. Et puisqu'à vos yeux, je suis de couleur, vous pouvez donc en déduire qu'il y a en tout cas un avocat de couleur en Afrique du Sud.
Espèce de sale cafre. Dirai-le. Écoute-moi, négro, tu vas filer en troisième classe. Sinon, je te fous dehors au prochain arrêt.
Mais je voyage toujours en première classe et j'ai fait des voyages dans...
He was shocked.
Gandhi était très choqué.
He believed in the equality of all human beings.
Il croyait en l'égalité entre tous les hommes.
He felt that all human souls...
Tous avaient une âme et pour lui, toutes les âmes pesaient le même poids, que vous soyez brun, noir, blanc ou jaune.
So this incident where he was picked up and tossed out absolutely shook him in the most core of his being.
Donc le fait d'avoir été jeté hors du train comme un malpropre secoua Gandhi au plus profond de son âme. Il ne pouvait pas comprendre qu'un être humain puisse traiter un autre humain de cette façon.
So he figured out that he must fight for human equality.
Alors c'est là qu'il décide de relever le défi et de lutter pour l'égalité et la justice.
So he then ended up staying in South Africa for 21 years.
C'est ce qui explique qu'il soit resté en Afrique du Sud pendant 21 ans.
Le choc de Gandhi en Afrique du Sud, raconté par l'un de ses petits-fils, Rajmohan Gandhi, écrivain, biographe du Mahatma Gandhi. Pierre Singaravelu, j'ai envie de vous demander, Gandhi n'est pas le seul Indien à partir travailler en Afrique du Sud. Pourquoi d'ailleurs à l'époque les Indiens émigrent-ils vers l'Afrique du Sud ?
Alors, il faut commencer par dire peut-être que entre l'abolition de l'esclavage en 1833 dans l'Empire britannique et la Seconde Guerre mondiale, puisque Gandhi obtient l'abolition de l'engagisme des Indiens au milieu de la Première Guerre mondiale en 1917, eh bien, plus de 30 millions d'Indiens quittent le sous-continent pour aller travailler aux quatre coins du monde, alors principalement dans les grandes colonies britanniques asiatiques, en Birmanie, au Sri Lanka, en Malaisie, mais aussi, comme nous le savons en France, aux Antilles, en Guadeloupe, aussi à La Réunion, et puis un certain nombre d'entre eux en Afrique. En Afrique, où déjà des commerçants indiens étaient installés depuis longtemps, depuis des siècles, les commerçants gujaratis s'était installé à Zanzibar ou sur les côtes africaines.
Donc ce ne sont pas seulement des raisons économiques qui poussent les Indiens à migrer, c'est aussi une tradition de voyage.
C'est ça, c'est une question très importante parce que ça révèle bien la diversité de cette immigration et de cette communauté indienne en Afrique australe et en Afrique orientale. Il y a des travailleurs engagés très pauvres qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles qu'on a pu rapprocher de l'esclavage, une nouvelle forme d'esclavage, comme l'a si bien étudié l'historien Hugh Tinker. Et en même temps, il y a des négociants, des hommes d'affaires, des commerçants indiens et notamment musulmans originaires du Gujarat, comme Gandhi, comme celui Abdullah Cheikh, qui va l'engager précisément à Pretoria, qui officie également en Afrique australe. Donc voilà, cette diversité-là est très importante pour analyser, disons, la réaction de Gandhi, qui, en 1893, dans ce train, comme ça a été raconté dans le film de Richard Attenborough, eh bien, il a d'abord une réaction de classe, plus qu'une réaction anticolonial, c'est-à-dire que c'est le bourgeois Gandhi qui est extrêmement choqué qu'on lui demande de rejoindre la troisième classe.
Et pourtant, il a étudié à Londres, Gandhi.
Oui, en fait, Gandhi, qui vient de Londres, où il a été, respecté, même s'il était un étudiant pauvre à l'époque, tout d'un coup, en Afrique australe, découvre directement cette situation coloniale, puisque auparavant, eh bien, il vivait à Porbandar dans un état princier semi-autonome, qui n'était pas colonisé directement par les Britanniques. Et donc, c'est la première fois qu'il est confronté directement à la fois au racisme et à une relation directe de domination.
Donc c'est bien en Afrique du Sud, Pierre Tsangarabelou, que Gandhi découvre le racisme en situation coloniale.
C'est en Afrique du Sud, oui, dès son arrivée, disons, à Durban, et précisément entre Durban et Pretoria, à Pietersmaritzburg. Et puis, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, en 1894, il accueillera dans son cabinet d'avocat quelques travailleurs coolies, pour le coup, qui ont été tabassés par des contremaîtres. Et c'est à ce moment-là qu'il prendra véritablement conscience de la condition dans laquelle ces Indiens vivent à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il lancera la première campagne de pétition pour l'abolition de l'engagisme.
Et donc la fin de l'exportation de la main-d'œuvre indienne vers les colonies.
Gandhi had this amazing vision of equality and mutual respect.
Gandhi a eu cette incroyable croyance dans l'égalité et dans le respect mutuel entre les peuples.
Yes, Gandhi not only outgrew his prejudices, he became.
Donc non seulement il a dépassé ses préjugés, mais il a montré le chemin pour les générations futures.
Vous écoutez Rajmohan, Gandhi, petit-fils et biographe de Gandhi au micro de Tirthankar Shondar pour La Marche du Monde.
Lorsqu'il vivait en Afrique du Sud, au milieu des Africains, des Blancs et des Chinois et des Européens, Gandhi a pris conscience de la diversité humaine et religieuse, ce qui va l'amener à formuler l'idée que les différentes races devront cohabiter dans le monde à venir. Il fait ces déclarations difficilement imaginables à l'époque pendant une rencontre publique à Johannesburg en 1908. Et il déclare que toute la diversité du monde, et il mentionne toutes les races, sont condamnées à fusionner.
And that South Africa
et que l'Afrique du Sud sera le laboratoire de cette alchimie humaine à l'œuvre. Et il parla de commingling, fusion en français, suggérant mélange et métissage des races pour construire cette famille humaine dont il entrevoyait déjà l'émergence. En tant qu'avocat, il commence par combattre le racisme légalement sur le plan juridique avant de passer à la vitesse supérieure en organisant des manifestations spectaculaires.
They need not merely obey laws that were not right, and some laws had to be disobeyed even if it meant being arrested.
Pourquoi respecter des lois injustes? Il fallait enfreindre ces lois au risque de la prison ou d'autres représailles.
That of course was the idea of civil disobedience, of disobeying a wrong law.
C'est bien sûr l'idée de la désobéissance civile qui consiste à désobéir à des lois considérées comme dégradantes ou qui heurtent la conscience. Donc, ces incidents vont transformer ce jeune homme et l'aider à devenir cet homme qu'aujourd'hui le monde entier admire.
And then he became the man that the world now knows.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good.
Je peux constater qu'au sein de la mort, la vie persiste. Au sein du mensonge, la vérité persiste. Au sein de l'obscurité, la lumière persiste. Donc, je déduis que Dieu est la vie, la vérité, la lumière. Il est l'amour. Il est le bien suprême.
La voix du Mahatma Gandhi sur RFI, une archive rare pour mesurer le chemin parcouru par un jeune avocat issu de l'élite indienne ayant choisi de migrer en Afrique du Sud où son destin bascule. Et c'est donc l'expérience sud-africaine de Gandhi qui l'amène à penser son concept de désobéissance civile. Pierre Sangaravelu.
Alors plusieurs auteurs ont parlé de désobéissance civile bien avant Gandhi. Ce qui est intéressant dans la pensée de Gandhi, c'est qu'il il résume cette nouvelle pratique à la fois philosophique et politique sous le terme de satyagraha. Alors satyagraha désigne l'étreinte de la vérité, la force de la vérité, et elle trouve son inspiration à la fois dans les textes de l'hindouisme et dans de grands textes occidentaux. Alors disons que la famille Gandhi dans le Gujarat fréquente beaucoup de Jain, et les Jain promeuvent cette non-violence précisément. Ils portent par exemple, et vous pouvez encore en voir beaucoup en Inde, un voile sur la bouche pour les empêcher d'avaler par mégarde un moucheron, c'est-à-dire qu'il respecte toute forme de vie en considérant qu'il existe un continuum entre l'insecte et l'homme.
Ils sont intégralement vêtus de blanc.
Ils sont également intégralement vêtus de blanc. Et donc le jainisme va être une source d'inspiration, comme la Bhagavad Gita évoquée tout à l'heure, qui au fond préconise le renoncement comme règle d'action et conseille d'agir de façon désintéressée, c'est-à-dire d'agir sans penser aux conséquences, aux fruits de son action. Et ça va beaucoup influencer Gandhi dans les années à venir. Et donc, aux côtés de ces sources d'influence indiennes, Gandhi lit notamment Tolstoï. Alors ça, c'est une influence intéressante parce qu'il va découvrir plus avant le christianisme à travers Tolstoï, le sermon sur la montagne avec le fameux « Tendre l'autre joue ». Et puis Tolstoï a écrit la célèbre lettre à un hindou où précisément il prône la non-violence. Et puis évidemment, dernière source d'inspiration très connue de Gandhi, l'un des principaux théoriciens de la désobéissance civile, Henry David Thoreau, qui lui pense dès la première moitié du 19e siècle la résistance à l'État, à un État injuste. Et Gandhi sera très inspiré par la lecture de ce philosophe états-unien.
Gandhi à l'école sud-africaine, c'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de la Marche du Monde sur RFI. Nous revenons sur l'itinéraire du Mahatma Gandhi et plus particulièrement sur ses années de jeunesse passées en Afrique du Sud en tant qu'avocat et militant pour la cause des migrants indiens. Mais à son retour en Inde en 1914, Gandhi est-il déjà Gandhi, le père de l'indépendance de l'Inde ?
Garde d'honneur ! Garde d'honneur ! Garde à vous !
Que se passe-t-il là-bas derrière ?
Oh, c'est sans doute l'Indien qui a fait tant d'histoires en Afrique. Mon boy m'a signalé qu'il était à bord. Regardez-le.
Seigneur, mais il est vêtu comme un coolie. Je croyais qu'il était avocat.
Monsieur Gandhi, avez-vous refusé de porter des vêtements européens ?
Non, je n'ai pas refusé. J'ai simplement voulu être vêtu comme mes camarades de prison.
Monsieur Gandhi, soutiendrez-vous l'effort de guerre ?
Si je peux, en tant que citoyen, bénéficier de la protection que peut m'offrir l'Empire britannique, je pense sincèrement qu'il serait mal de ne pas à mon tour le défendre.
Merci infiniment.
Nous sommes le 9 janvier 1915 et Gandhi débarque à Bombay. Il a déjà 46 ans et il a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à l'étranger. D'abord en Angleterre où il a suivi ses études de droit, puis en Afrique du Sud où il a exercé en tant qu'avocat pour défendre les droits de sa communauté. Écoutez la voix de son petit-fils, Raj Mohan Gandhi. Son biographe revient sur l'épisode de la répression impitoyable menée par le colon britannique contre la rébellion Zoulou en Afrique du Sud, dont Gandhi est le témoin.
L'expérience la plus marquante de la discrimination à laquelle Gandhi et tous ses compatriotes indiens ont été confrontés en Afrique du Sud est sans doute la révolte des Zoulous contre les Britanniques en 1906. Gandhi l'a vécu, il travaillait en tant qu'ambulancier et brancardier préposé à ramasser des blessés et des mourants. Il a pu voir de près les Zoulous innocents se faire fouetter, battre et même tuer. Tout cela accéléra sa compréhension du monde et de la vie. Il s'est dit que sa vie devait servir à quelque chose. Il ne pouvait pas seulement vivre pour gagner de l'argent ou pour la célébrité. Il avait une mission à accomplir, celle de soulager la détresse humaine en empêchant les hommes de perpétrer ces cruautés qui ne cessent de s'infliger les uns aux autres. Donc cette expérience de la révolte des Zoulous menée par le chef Bambata en 1906 a enseigné à Gandhi l'irrationalité de la violence. Et c'est là qu'il a imaginé une résistance non violente et peut-être plus efficace.
As a corollary, Gandhi also said that if he was to fight in a non-violent way, he must himself learn very great discipline.
Gandhi a également conceptualisé la nécessité de commencer par s'appliquer à soi-même sa propre discipline. Il devait s'affranchir de ses biens financiers et matériels.
This is what he has himself said.
Comme il l'a dit lui-même, Gandhi a pensé l'idée de sa résistance non violente,
of what he calls satyagraha, clinging to the truth,
ou satyagraha, signifiant littéralement en langue indienne s'accrocher à la vérité, alors qu'il parcourait les collines du Natal, qui ont vu tant de violence et d'effusions de sang en 1906.
Et nous retrouvons notre invité Pierre Singaravelu, directeur du Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine, puisque nous essayons de décrypter ces années de formation de Gandhi, issu de l'élite indienne, étudiant en droit à Londres, avocat en Afrique du Sud et témoin de la répression des Zoulous en 1906. Quel regard porte Gandhi sur la discrimination contre les Africains, puisque nous savons qu'il a très peu de contacts en fait hors de sa communauté indienne. Quels sont au fond ses préjugés?
Ces préjugés, nous pouvons les lire dans sa correspondance où il parle des cafres, c'est-à-dire des Africains inférieurs aux Blancs et aux Indiens. Il évoque à la fin des années 1890 l'indolence des Noirs par rapport au dynamisme des travailleurs indiens. Et évidemment, il a soutenu les Britanniques à plusieurs occasions. Alors d'une part, pendant la guerre des Boers, autour de 1900, contre les Afrikaners, ses descendants donc des colons néerlandophones. Et puis, il s'est engagé aux côtés des colonisateurs britanniques à nouveau contre les Zoulous qui se révoltent en 1906 à la suite d'une augmentation de l'impôt colonial, en créant un corps d'ambulanciers indiens pour aider, dans un premier temps, les colonisateurs britanniques et puis aussi les blessés zoulous. Alors ça va jouer un rôle très important parce que il va prendre la mesure à ce moment-là de la violence, de la brutalité de la domination coloniale britannique à l'égard de la majorité autochtone africaine. Il va témoigner des viols, des meurtres de zoulous à ce moment-là. Et donc, disons que c'est une étape importante hein, dans sa prise de conscience de la nécessité d'intégrer cette question autochtone dans sa pensée politique.
Pierre Singer-Avelou, vous voulez dire qu'au départ, Gandhi n'a pas d'empathie particulière à l'égard de la réalité, cette réalité de la discrimination la plus violente que vivent au quotidien les Africains d'Afrique du Sud ?
Oui, au départ, il ne se pose pas la question autochtone. Il fonde, quelques mois après son arrivée, un parti politique, le Natal Indian Congress, dès 1894, sur le modèle du Congrès indien fondé en 1885. Et ce mouvement politique a pour but de défendre exclusivement les droits des Indiens en Afrique australe, par exemple en obtenant la création d'une troisième entrée dans les bureaux de poste ou les gares où existaient auparavant deux entrées, une entrée pour les Européens et une autre pour les personnes de couleur. Et il demande l'ouverture systématique d'une troisième entrée pour permettre aux Indiens de ne pas frayer avec les autochtones.
Donc cela veut dire que le système n'est pas remis en question. Chaque parti, qu'il soit l'ANC africain ou qu'il soit le congrès du Natal indien, chaque parti finalement a totalement ingéré le système tel que le colonisateur britannique lui impose. Puisque chacun se bat dans sa catégorie. Si j'allais dire.
Oui, c'est le fameux divisé pour régner, le divide to rule qui s'est imposé en Afrique australe comme ailleurs, comme dans l'Algérie française, comme dans l'ensemble du continent. Et il est vrai, attendre 1952 pour que la première grande campagne de défiance, qui est une campagne de désobéissance civile à l'échelle de toute l'Union sud-africaine, réunisse le Congrès indien et le Congrès africain, l'ANC, dans une lutte commune en Afrique du Sud.
Quelques mots et on vous rendra au monde civilisé. Permettez ? Je suis bien heureux d'être chez moi. Et merci de votre accueil.
Pierre Singer-Avelou, alors qui est celui qui rentre en Inde en 1914, qui entreprend ce grand voyage par bateau et qui finalement arrivera en 1915 et qui est accueilli par la population? Est-ce qu'il est déjà un nationaliste?
Gandhi n'est pas encore nationaliste à ce moment-là. Toutefois, il revient en Inde totalement transformé par cette expérience, cette longue expérience sud-africaine. Transformé d'abord physiquement, puisque, comme cela a été précisé, il revient habillé en quelque sorte en coulis, hein, c'est-à-dire avec un dhoti blanc noué autour de la taille et puis une pièce de coton sur les épaules. Il a abandonné son costume d'avocat et il est accueilli en superstar. En superstar parce que, eh bien, c'est devenu progressivement, à partir du début du XXe siècle, à distance, un véritable héros en Inde, alors qu'il n'a effectué que 3 allers-retours entre l'Afrique du Sud et le sous-continent indien. Il est accueilli en héros parce qu'il a su parfaitement maîtriser sa communication, s'entourer de reporters de tous les pays du monde, et notamment de reporters états-uniens et britanniques.
Et qui sont venus faire des reportages hein, dans ces ashrams créés par Gandhi, c'est-à-dire ces fermes coopératives, égalitaires et multiconfessionnelles en Afrique du Sud.
Oui, précisément, qui relaie sa parole un peu partout dans le monde. Et il faut dire qu'il revient en Inde victorieux, puisque il a réussi à imposer au gouvernement britannique de mettre fin à un certain nombre de discriminations à l'encontre des Indiens d'Afrique du Sud.
Monsieur Mohandas Gandhi. Quand je suis revenu de mon voyage en Afrique, j'ai décidé de parcourir l'Inde. Je sais que ce voyage, je pourrais le poursuivre de nombreuses années encore, et malgré tout ne voir qu'une petite partie de ce pays. Cependant, d'ores et déjà, je sais que ce que nous disons ici n'a aucun sens pour les masses de notre pays. Ici, nous nous adressons à nous-mêmes et aux journalistes libéraux britanniques qui peut-être nous offriraient quelques lignes. Mais le peuple de l'Inde reste sur la touche. Sa politique se cantonne au pain et au sel. Mais pour un analphabète qu'il soit, il n'en est pas aveugle. Il ne voit pas pourquoi il serait loyal envers des hommes riches et puissants qui veulent seulement prendre à leur compte le rôle des Britanniques au nom de la liberté. Ce congrès annonce au monde qu'il représente toute l'Inde. Mes frères, l'Inde, c'est 700 000 villages. Et non quelques centaines de juristes à Delhi et à Bombay. Tant que nous ne serons pas dans les champs, avec les millions d'hommes qui y peinent chaque jour, sous le dur soleil, nous serons loin de représenter toute l'Inde. Et nous serons incapables de défier la Grande-Bretagne en tant que nation unie.
Qu'est-ce qui fait la nouveauté du message porté par Gandhi à son retour d'Afrique du Sud, lorsqu'il s'exprime devant le Congrès, qui est donc le parti politique indien, qui d'ailleurs l'a accueilli à son arrivée à Bombay? Comment vous pourriez qualifier justement cette particularité de Gandhi à vouloir être un coulis parmi les coulis? Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie d'abord que Gandhi parvient très rapidement à prendre la tête du parti du Congrès dès 1920-21 en le démocratisant, c'est-à-dire en transformant ce qui était un club de notables, fondé en 1885, en véritable parti de masse. Gandhi le transforme en véritable organisation en d'abord instaurant le principe de l'adhésion symbolique, c'est-à-dire que chaque paysan ouvrier peut adhérer au Congrès en donnant une roupie. Alors que jusque-là, évidemment, l'adhésion était réservée aux franges les plus aisées de la société. Et Gandhi s'impose très rapidement au début des années 1920 comme le principal leader du principal parti indien en Inde, tout simplement aussi parce que les grands leaders historiques du mouvement nationaliste disparaissent à ce moment-là, à l'instar de Gokhale qui a été cité dans le film d'Attenborough.
Alors lui, Gandhi, fils de Diwan, donc de Premier ministre, lui qui a fait ses études à l'université de droit à Londres, lui qui a été avocat, qui a porté des beaux costumes, s'est totalement transformé, y compris physiquement, lors de ce retour en Inde. Il commence à s'engager politiquement au sein du Congrès. Et pourquoi choisit-il de faire ce grand Indian Tour? Pourquoi il part comme ça en train à la découverte de son propre pays? Pierre Saint-Garavelou.
Tout simplement parce qu'il ne le connaît pas. Il reconnaît ignorer quasiment tout de son pays d'origine. Lorsqu'il revient en Inde en 1915, il fait partie de ces patriotes expatriés, au même titre que Ho Chi Minh ou Sun Yat-sen. Ce sont de grands leaders qui vont devenir les pères de leur nation et qui ont vécu de très longues années en dehors de leur pays.
Par ailleurs, vous avez souligné son talent pour la communication, puisque en Afrique du Sud, il a eu l'idée évidemment immédiatement de créer son propre journal. Est-ce que là, c'est déjà l'idée de faire campagne?
C'est-à-dire qu'il décide de voyager pour aller à la rencontre des gens dans les petits villages. Il prend le temps de discuter avec les femmes, les hommes, les enfants, pour prendre le pouls du pays. Et puis, il installe à nouveau un ashram, pour la première fois en Inde, à côté d'Ahmedabad. Et il va, à partir donc du milieu des années 1910, eh bien lancer toute une série d'initiatives dans le cadre de ce qui va devenir la non-coopération, donc des grèves contre les grands propriétaires, des mouvements civiques en tout genre, des manifestations contre la domination coloniale britannique, et en prenant soin, comme vous le dites, de mobiliser la presse, ses amis occidentaux qui relaient ses actions à l'étranger, et notamment en Grande-Bretagne.
Et lors de ces nombreuses actions, Gandhi est régulièrement arrêté et mis en prison par les Britanniques, mais il reste légaliste jusqu'à ce terrible massacre du 13 avril 1919 dans l'état du Pendjab. C'est un événement que je vous propose de revivre à travers cet extrait du film de Richard Attenborough, Gandhi.
On les avertit, mon général?
Ils ont été suffisamment avertis. Rassemblement interdit.
Feu!
Pardonnez-moi, messieurs, mais vous devez comprendre que Sa Majesté, son gouvernement et son peuple désapprouvent de façon totale à la fois ce massacre et l'idéologie qui l'a permis. Ceci étant, ce que je souhaiterais, c'est arriver à un certain compromis sur la nouvelle législation civile.
Veuillez m'excuser, Excellence, mais selon notre point de vue, il n'est plus question désormais d'aucune législation. Nous estimons qu'il est temps pour vous de reconnaître que vous êtes maître dans la maison d'un autre. Et malgré les meilleures intentions des meilleurs d'entre vous, il est normal que vous soyez obligés de nous humilier pour nous contrôler. Le général Dyer n'est pas autre chose qu'un exemple extrême de ce principe. L'heure est venue pour vous de partir.
Gandhi deviendrait-il Gandhi après ce 13 avril 1919, à Amritsar, où le général Dyer ordonne le massacre des manifestants non-violents du Pendjab? Est-ce que c'est un moment de basculement pour Gandhi, d'autant qu'il avait soutenu la participation des troupes coloniales indiennes dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, qui a été une boucherie sans nom, Pierre Tsangaravelu?
Alors Gandhi appelle les Indiens à participer massivement à l'effort de guerre britannique pendant la Première Guerre mondiale. Plus +1,3 million Indiens participent à ce conflit. Et Gandhi espère en retour une égalité
des droits,
une réforme du système colonial plus conséquente qui tendrait vers l'autonomie de l'Inde au sein de l'Empire britannique. Cette promesse est trahie. Alors il se trouve que le 13 avril 1919 à Amritsar, au Pendjab, le général Dyer décide de faire feu sur la foule réunie pacifiquement. Il y a plus de 400 morts à cette occasion, c'est un véritable massacre, et cela suscite évidemment une émotion globale, y compris en Europe. Et le gouvernement britannique, contre toute attente, décide de couvrir le général Dyer, qui est blanchi, alors que Gandhi, lui, monte une commission indienne pour enquêter sur les responsabilités britanniques dans ce massacre. Et ils comprennent à ce moment-là, lorsque le Parlement britannique décide de blanchir le principal responsable du massacre, que les Indiens ne peuvent plus rien attendre de la Grande-Bretagne, qui n'est pas cette puissance bienveillante à l'égard de l'Inde, et que la seule solution pour eux, c'est la décolonisation, qu'ils ne peuvent plus souhaiter une quelconque réforme, mais que les Britanniques doivent quitter l'Inde.
Testament spirituel de Gandhi.
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it.
Il y a un pouvoir indéfinissable et mystérieux qui envahit toute chose. Je le sens même si je ne le vois pas. C'est ce pouvoir invisible qui définit toute vérité. Il transcende les sens, mais il est possible de raisonner de l'existence de Dieu. Même dans les affaires ordinaires, nous savons que les gens ignorent qui gouverne, ou pourquoi et comment ils gouvernent. Et cependant, ils savent qu'il existe un pouvoir qui certainement gouverne.
L'Inde rendra-t-elle aux Noirs d'Afrique du Sud ce que l'Afrique du Sud a donné à Gandhi ? Oui, nous dit Rajmohan Gandhi, puisque l'Inde indépendante est la première à condamner l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi parce que Gandhi a largement inspiré le combat pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs porté par Nelson Mandela.
Of course, there was evidence of Gandhi's relevance without the incredible role that Mandela and Martin Luther King played.
Bien entendu, les idées de Gandhi avaient marqué les imaginaires avant même que Mandela ou King n'arrivent sur le devant de la scène. Mais leurs exemples ont apporté la confirmation de l'universalité de la méthode gandhienne dans le domaine de la lutte contre l'oppression. Dans sa jeunesse, Nelson Mandela a cru à l'efficacité de la violence. Mais le long chemin qu'il a parcouru a complètement changé le regard qu'il portait sur la vie. Et il ira jusqu'à pardonner à ses ennemis et à travailler avec ceux qui avaient opprimé son peuple. Il s'agissait d'une véritable mutation.
In this remarkable willingness to build a South Africa for all the races of South Africa.
En œuvrant pour construire une Afrique du Sud qui reconnaît les mêmes droits à tous les Sud-Africains, indépendamment de leur appartenance raciale, Mandela marchait dans les pas de Gandhi.
Because Gandhi also said to the Indians all the time.
Rappelons que Gandhi avait sans cesse rappelé à ses compatriotes indiens à lutter contre les Anglais, mais également à aimer les Anglais. Une telle exigence, ça sonne bien dans le discours, mais c'est très difficile à mettre en pratique.
So Gandhi and Mandela are very similar in that regard.
De ce point de vue, Gandhi et Mandela, c'est le même combat.
Gandhi et Mandela, même combat, conclut Rajmohan Gandhi, petit-fils du Mahatma Gandhi, alors que ce soit en Afrique du Sud ou en Inde, Pierre Tsangaravelu, on a le sentiment aujourd'hui que cette philosophie de la non-violence chère à Mandela et chère à Gandhi ne soulève plus vraiment les foules. Alors est-ce que cela donnerait raison d'une certaine façon à l'assassin de Gandhi, puisque c'est la date anniversaire de son assassinat, hein, c'était le 30 janvier 1948, un assassin porté par son extrémisme religieux hindou?
Alors, ce qui est certain, c'est que le contexte politique aujourd'hui en Inde n'est pas favorable à une réappropriation de la pensée et de l'œuvre politique de Gandhi, puisque depuis 2014, c'est le BJP, donc les nationalistes hindous, qui sont au pouvoir.
Donc parti éminemment d'extrême droite, mais aussi religieux.
Parti d'extrême droite religieux, qui est représenté aujourd'hui par Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, qui auparavant a dirigé précisément la région du Gujarat, où ont eu lieu des massacres de musulmans en 2002 qui ont fait plus de 1000 morts et qui n'ont pas été condamnés fermement par Modi. Et donc, depuis 2014, on observe une explosion des agressions, des meurtres de musulmans, de minorités religieuses en général, mais aussi de dalits, des intouchables. Bon, donc ce contexte, évidemment, n'est pas du tout favorable à l'épanouissement d'un renouveau du gandhisme. Et en même temps, c'est vrai que dans le reste du monde, on a l'impression que le message de Gandhi est toujours aussi vivace, puisque il a été considéré comme une source d'inspiration pour toute une série de mouvements de désobéissance civile aux quatre coins du monde, que ce soit dans le cadre du printemps arabe, mais aussi le mouvement des indignés en Espagne, ou encore le mouvement Occupy Wall Street qui s'est revendiqué en grande partie de la pensée de Gandhi. Et donc on peut considérer que l'exercice d'une véritable citoyenneté aujourd'hui peut supposer parfois la désobéissance.
Oh, Mulu, oh, Iansan, Iemanjá, Xamã, Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi.
Nous sommes les filles et les fils de Gandhi chantent Caetano Veloso et Gilberto Gil dans cette chanson hommage choisie par Elliot Bourrel à la réalisation de cette émission. Gandhi à l'école sud-africaine, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon avec la complicité de Tirthankar Chandar, auteur de l'entretien mené d'une main de maître à Bombay avec le vénérable Rajmohan Gandhi. Un entretien retrouvé sur la page RFI.fr de La Marche du Monde. Un grand merci également à notre invité historien Pierre Singaravelou et à la sonothèque de RFI pour avoir retrouvé la voix de Gandhi si rare, dont le rôle était interprété par l'acteur britannique Ben Kingsley, lui-même d'origine indienne, dans le film de Richard Attenborough, Gandhi. On se retrouve bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
Chumaré, todo pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Iansan, Iemanjá, Xamã, Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi.